À 21h, elle frappa à ma porte. Voir arriver un visage ami sur ce rivage hostile me remplit de joie. Je commençais des effusions auxquelles elle coupa court. « J'ai faim, allons dîner, vous me raconterez tout ça en chemin. » Je la suivis au travers de rues sombres en lui expliquant ma rencontre calamiteuse avec Vivienne Westwood. Petronille rigola sans ménagement. « Vous trouvez ça drôle ?»« Ouais, je devine que ça l'était moins en vrai. Le coup du caniche ?»« À ma place, qu'auriez-vous fait ?»« J'aurais sorti à la vieille mon répertoire d'insultes écossaises. » »« C'est cela, mon malheur, je ne connais pas d'insultes écossaises. » « Allons, même si vous en aviez connu, vous n'auriez rien dit. J'ai lu votre bouquin, Stupeur et tremblement. » Elle avait raison. La grossièreté d'autrui n'a d'autre effet que de me pétrifier. Entre-temps, nous étions arrivés près d'une gargote qui embaumait. « Un dîner indien, ça vous dit ? Sauf si vous tenez vraiment au mie de paille. » Cette excellente cuisine ne tarda pas à me ragaillardir. Ensuite, Petronille m'entraîna dans un pub où elle commanda d'autorité deux Guinness. Un rock band précurseur jouait quelque chose de bizarre qu'ils appelaient dubstep. « Il faut pas consommer la mousse à part, » dit Petronille en me voyant la laper. « La Guinness est bonne quand elle est bue à travers la mousse, sans parler de votre air de handicapé mental quand vous lapez la mousse. » « J'aime cette musique. On dirait qu'il passe les basses au fer à friser. » « Et dire que sans moi, vous n'auriez plus quitté la chambre d'hôtel. » « J'étais traumatisée. » « Je sentais que vous seriez la seule à pouvoir me donner le cran de sortir. »« Quelle chochotte vous faites! Vous en avez vécu de plus dur! Tout ça pour une harpie qui se la joue !» Tard dans la nuit, Petronille m'emmena dans une ruelle aux allures de coupe-gorge. Elle se posta en un lieu précis et me dit avec une solennité extrême. « Voilà. Je suis à l'endroit exact où Christopher Marlowe a été assassiné. » Je me surpris à trembler. « Vous me faites terriblement penser à Christopher Marlowe, » dis-je. « Vous n'avez aucune idée de son apparence, » rétorqua-t-elle. « En effet, mais votre côté mauvais garçon vous apparente tellement aux contemporains de Shakespeare. Vous dites de ces énormités, vous alors ?» Plus tard, il me fut accordé de voir un portrait de Christopher Marlowe. Mon intuition se vérifia. Petronille lui ressemblait étrangement. Si on lui rasait le bouc et la moustache, on obtenait Petronille, son visage poupin, son air juvénile et farceur. Il devait être 1h du matin quand nous regagnâmes la chambre d'hôtel. Lorsque je m'éveillai 3 heures plus tard pour écrire, je vis que Petronille dormait à l'autre bout du lit colossal. Il me sembla qu'elle ne s'était pas déshabillée. J'allai écrire dans le salon de la suite, sans me laisser intimider par le mobilier victorien. Le phénomène, comme tous les jours de ma vie, s'empara de moi pendant 4 heures environ, et puis me déserta. Par la fenêtre, je vis se lever ce qui devait équivaloir au soleil de ce côté-ci de la Manche. Une moindre obscurité. Petronille ne m'avait jamais aperçue dans ma tenue d'écriture, un genre de pyjama anti-nucléaire japonais. Et je résolus de ne pas la traumatiser. Je traversai la chambre sur la pointe des pieds en direction de la salle de bain quand j'entendis « C'est quoi ce truc ?»« C'est moi. » Silence suivi de « D'accord, c'est plus grave que prévu. »« Je vais me changer, si vous voulez. »« Non, non. Si j'allume la lumière, ça prend feu ?»« Je vous en prie. » Elle s'exécuta et me regarda de rechef. « Ah, la couleur vaut le détour, elle aussi. Vous appelez comment ce coloris ?»« Kaki. » »« Non. » Kaki, c'est vert. Et vous, c'est orange foncé ? Justement, couleur du fruit nippon, le kaki. C'est mon costume d'écriture. Et ça donne de bons résultats ? Je vous laisse juger. Elle rigola et se leva. Ce fut mon tour d'être surprise. Vous n'avez rien enlevé pour dormir, pas même vos chaussures.
Un vrai cow-boy. Comme ça, en cas d'attaque nocturne, je suis prête.
Sérieusement ?
Non, j'étais crevée.
« Je commande le petit déjeuner. Que désirez-vous ? » ?»«
Surtout pas leur saloperie de saucisses, de porridge et de rognons. Du café, des toasts et de la confiture. »
Tandis que j'appelais le room service, elle alla prendre une douche. Le petit déjeuner nous fut servi dans la salle à manger. Telle Milord et Milady, nous étions assises chacune à l'extrémité d'une très longue table.
« C'est pratique pour se passer le sucre !» dit Petronille. J'aime bien. Vous avez vu le flegme de ces gens? La dame du petit déjeuner n'a pas remué un sourcil quand vous lui avez ouvert en pyjama orange. Elle a dû voir pire dans sa vie. Moi pas. J'éclatais de rire. Que voulez-vous faire ce matin? Qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans ce pays? Demandai-je. La gratuité des musées, c'est bien, non? Incontestablement. Allons au British Museum? Dont acte. Afin de ne pas nous perdre, nous nous donnâmes rendez-vous en Mésopotamie à midi. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut se fixer des lieux de rendez-vous pareils. En de tels édifices, j'apprécie encore plus l'ensemble que le détail. J'aime me promener sans autre logique que mon plaisir, de l'Égypte ancienne aux Galapagos, en passant par Sumer. Me farcir l'assyriologie entière me resterait sur l'estomac. Qu'en picorer quelques caractères cunéiformes en guise d'apéritif, des runes en entrée, la pierre de Rosette en plat de résistance et des mains négatives préhistoriques comme dessert exaltent mes papilles. Ce que je ne supporte pas, dans les musées, est le train de sénateur que les gens se croient obligés d'adopter en leur sein. Pour ma part, je m'y déplace au pas de gymnastique, embrassant du regard de vastes perspectives. Qu'il s'agisse d'archéologie ou de peinture impressionniste, j'ai observé les avantages de cette méthode. Le premier est d'éviter l'atroce effet guide bleu.
Admirez la bonhomie du Cheikh El Beled. Ne dirait-on pas qu'on l'a croisé hier au marché?
Ou
un litige oppose la Grèce et le Royaume-Uni au sujet de la frise du Parthénon.
Le deuxième est concomitant au premier. Il rend impossible les considérations de sortie de musée. Les bouvards et pécuchés modernes en ont la chic coupée. Le troisième avantage, et non le moindre en ce qui me concerne, est qu'il empêche le surgissement du terrible mal de dos muséal. Aux alentours de midi, je me rendis compte que j'étais perdue. J'abordai un responsable en ces termes.
« Mésopotamia, please. Third floor, turn to the left. »
me répondit-on le plus simplement du monde. Comme quoi, on a bien tort de croire que la Mésopotamie est à ce point inaccessible. Petronille m'y attendait, fidèle au rendez-vous. J'appréciais qu'elle m'épargne le digest de sa visite, au lieu de quoi elle proposa un fish and chips.
« Vraiment ? » demandai-je.
« Ouais, c'est un classique qui vaut le détour. À Soho, je connais un coin où il est bon. » Dans le boui-boui en question, elle arrosa d'autorité mon assiette d'une généreuse quantité de vinaigre. Moyennant quoi, je convins que c'était très agréable.
« On se tutoie ?»
suggéra-t-elle en buvant une gorgée de bière.
« Pourquoi ?»«
On a dormi dans le même lit, je vous ai vu en pyjama orange, on mange ensemble du fish and chips. Ça devient bizarre de nous vous voyer. »
Pour moi, l'unique question est celle-ci. Que nous apporterait le tutoiement ?
Ça va, vous êtes contre.
Dans 100% des cas, je l'avoue.
C'est votre éducation.
Au contraire. Dans ma famille, on tutoie autant que possible. Non, c'est épidermique. Le voussoiement me plaît.
C'est entendu.
Attendez, nous sommes deux.
Ce qui rend l'élection caduque, une voix pour, une voix contre.
Oui, mais pourquoi ma voix l'emporterait-elle?
Ce n'est pas juste. Bah, on va quand même pas jouer ça à pile ou face.
Si. Précisément, le hasard est une justice digne de ce nom.
Petronille sortit de sa poche un penny et dit « Pile, tu, face, vous ». Elle jeta la pièce en l'air d'une chic note du pouce. Jamais je n'avais tant espéré voir le visage de la reine.
« Pile !»
annonça-t-elle.
« Cela va être dur. »
« Vous n'avez qu'un mot à dire et on en reste au vous. »
« Non, non. Je me tromperai beaucoup. » Mais j'y arriverai.
Après le déjeuner, nous passâmes devant une boutique vintage qui proposait des docks d'occasion. J'en avisai des bleus rois à lanière, pas trop déglingués. Petronille décréta que ça m'allait au poil.
Ça change de tes pompes de mongolienne.
En quoi mes chaussures méritent-elles ce sarcasme?
Si t'étais normal, tu comprendrais.
Tu vois que le tutoiement n'est pas sans conséquences. Regarde de quoi tu me traites à présent.
« Faux. Ce matin, je t'ai qualifié de handicapé mental. »
Absurdement rasséréné, j'achetai les docks à lanière. Je les porte encore aujourd'hui. En chemin pour la gare, nous croisâmes un individu qui promenait un Welsh Corgi. Nous tombâmes dans une pâmoison identique.
« Je suis dingue de ces clébards !»
s'écria Petronille. Moi aussi, c'est mon chien préféré. C'est également celui de la reine. Maintenant que tu le dis, tu ressembles à un mélange de Welsh Corgi et d'Elisabeth II. 50-50.
Elle n'en démordit pas. Dans l'Eurostar, Petronille me demanda mon verdict sur Londres.
Jusqu'à ton arrivée, j'ai trouvé que c'était un purgatoire.
Et depuis que je suis là,
c'est l'enfer.
Elle partit de son grand rire.
T'as raison, on s'est bien amusé.
C'est vrai que grâce à elle, j'avais apprécié ce séjour éclair. Il n'empêche qu'en quittant la gare du Nord en ce quartier qui n'est pas franchement folichon, je compris soudain pourquoi on disait le Gai Paris.
Comme cette ville est joyeuse et légère.
On va boire du champagne ? Proposa Petronille. Elle avait raison. C'était lié. Au premier troquet venu, en face de la gare, je commandai une bouteille de Tétinger. Nous la bûmes en tenant des propos anti-anglais. Rien de tel pour l'ambiance. Au moment de nous séparer, nous convînmes que nous ne pensions pas un mot de ce que nous avions dit. De retour chez moi, j'écrivais aussitôt mon article « Entretien avec Vivienne Westwood », dans lequel j'encensais cette femme au plus haut degré. Néanmoins, je n'omis aucune des grossièretés dont elle m'avait accablée, y compris mon devoir de promener le caniche. Quand la commanditaire reçut mon papier, elle me téléphona pour me présenter ses excuses.
« Vous n'y êtes pour rien, » dis-je. « Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous m'aviez affirmé qu'elle se réjouissait de me rencontrer. »
« C'est ce que m'avait dit son agent, et c'eût été la moindre des choses. Que puis-je faire pour réparer le dommage moral ?»«
Il n'y a pas lieu de parler de dommage moral, quand même. Pourquoi ne pas convoquer une cellule psychologique tant que vous y êtes ?»«
Non, certes, mais quelques bouteilles de champagne, c'est excellent contre le dommage moral. »
Visiblement, cette journaliste me connaissait.
« Ah, vous parliez de ce dommage moral-là ? »
« Oui, ma foi, une ou deux bouteilles de Laurent Perrier. »«
Cuvée grand siècle ?»«
Vous avez raison, il ne faut pas sous-estimer le dommage moral que j'ai subi. » Le lendemain, quatre bouteilles de Laurent Perrier cuvée grand siècle me furent livrées. À ce compte-là, je suis prête à interviewer les pires teignes de la planète et à promener leurs caniches où elles voudront.